Show le midi.
Elle n'a pas passé 3 mois là-bas pour devenir la reine. Seulement 3-4 jours là-bas au Nunavut pour devenir la reine du Nunavut. Elle est de retour. Elle est dans son Cancun natal, Cancun, Québec. Trouves-tu qu'il fait chaud ici,
Pascal Zévin? Oui, pour vrai, hier, là. Oh là là, oui. J'étais prête à être en gougoune.
T'as-tu dégelé?
Je pense pas.
Non.
Mentalement, dans mon cœur et de corps, non.
Non. Quel genre de température t'as eu au Nunavut?
Un moins 34, bien sec, bien ressenti, bien engeluré pour ton visage.
Ouais, puis là, il compte-tu le facteur vent là-bas?
Ben, il y a des jours que t'as pas de vent.
Okay.
Donc, t'es à moins 34 sec, des jours que t'es à moins 34 plus le vent et dans l'humide.
Ouais. T'étais-tu bien habillé? T'étais-tu bien équipé pour ton grand voyage pour devenir la reine du Nunavut? T'as-tu rencontré le roi du Nunavut?
Non, j'ai pas rencontré. Je veux pas dire ça de même.
Non.
Non, mais le maire, je l'ai rencontré.
Ouais.
Parce que c'était vraiment un voyage d'immersion complète.
OK, je pensais que c'était le roi du Nunavut qui te faisait venir, dans le cas où peut-être tu pourrais devenir une de ses prétendantes.
Non.
J'ai toujours mal compris ces patentes-là.
T'as toujours voulu comprendre ce que tu voulais comprendre, c'est pas pareil. Mais, tu sais, initialement, j'allais un peu expliquer, parce qu'il y a des gens qui me posaient des questions, à savoir « pourquoi tu vas là-bas? »
Ouais.
C'est un rêve depuis plusieurs années. C'est super difficile d'y aller, puis surtout avec un statut journalistique, là, honnêtement.
Ça coûte cher?
Ça coûte extrêmement cher.
Ah ouais.
Un billet d'avion, c'est 4 000 en montant.
Okay.
Mais moi, j'ai une chance inouïe, honnêtement. Là, une chance inouïe, pour vrai. C'est que, tu je parle de ça depuis toujours, que c'est mon rêve. Fait qu'à un moment donné, il y a du monde qui capte. Puis Luc Paquette, qui est chroniqueur et directeur du Mont-Saint-Anne, ici à Boulevard 101, là, chroniqueur avec l'équipe du matin, il y a un moment donné parlé du Nord, puis qui avait habité là, puis moi j'avais jasé avec, je sais pas combien de temps, puis on se relançait, puis j'étais intéressée. Une de mes bonnes amies, Fred de Forks and Folks aussi, elle a habité dans le Nord. C'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. J'ai fait des études, j'ai un certificat entre autres en enjeux autochtones, et tout ça. C'est toujours quelque chose qui m'a captivée. Et là, Luc, il y a eu un fonds pour envoyer des profs dans le Nord où il a habité, où il a enseigné aussi avec l'école parce qu'il y a une grande pénurie de main-d'œuvre d'enseignants. C'est une autre réalité. Puis il s'est dit, on va aller faire un échange de culture. Là, tu te dis, ça vaut-tu la peine de faire ça? Tu ressors-tu vraiment avec quelque chose? C'est une semaine, c'est pas beaucoup. Tu n'as pas aidé comment en une semaine. Tu peux pas parler pour tous leurs défis. Tu peux pas parler pour toute leur réalité en une
stock,
semaine.
Hein?
Mais il y a du stock quand même. Puis le vivre, tu sais. À un moment donné, la dame, notre agent de liaison là-bas, a dit... Je savais qu'elle m'analysait les premiers jours. Elle m'analysait voir quel genre de personne que j'étais. Si j'étais là plus dans un esprit critique négatif ou avec une ouverture d'esprit. Puis quand elle a catché un peu dans quel état j'étais puis quelle personne j'étais, elle m'a dit « Veux-tu enseigner? » Parce qu'il y avait une pénurie, puis cette journée-là, il y a une professeure qui s'est présentée, puis tout ça. Je me suis ramassée à enseigner de l'éducation physique.
Avec des jeunes?
Avec des jeunes, ne parlant pas leur langage, parce que j'étais avec des maternelles, moi, de mon côté, quand j'étais mise dans une classe. Fait que je me suis ramassée dans des classes à enseigner à des jeunes qui parlent seulement inuktitut, un peu anglais pour certains, parce qu'ils n'ont pas commencé des langues secondes ou autres. Avec mon français puis mon anglais correct, mais quand même, avec un gros accent, tu sais, québécois. Fait qu'il y a des moments tellement spéciaux que je vais avoir dans mon cœur par rapport à ces jeunes-là. T'sais, certains ont un trouble d'attachement, t'arrives là, ils sont pas sûrs de vouloir te faire confiance, t'es là pour quelques heures seulement, c'est difficile. Pour... Fait que globalement, je pourrais t'en parler de façon différée là, sur tellement de sujets. Je pourrais te parler de la politique, il y a une mine qui est en train de se créer là-bas actuellement parce qu'on veut développer nos ressources au Québec, t'sais, puis notre argent, parce que ce qui se trouve sur une partie du territoire où nous naviguons, c'est des métaux rares les plus recherchés au monde. Fait que là, nous, si on les exploite pas, on se fait pas une économie là-dessus. En ce moment, c'est la course à l'économie pour tout le monde puis au protectionnisme de nos ressources. Mais ça comporte des enjeux très importants aussi pour ces communautés-là qui se voient un peu gruger leur territoire. Puis tu sais, ils ont juste la chasse et la pêche pour s'assurer de s'alimenter.
Ouais. L'heure est-tu très importante pour eux?
Non.
Non, hein?
Non, pas du tout. C'est un autre rythme de vie complètement. Là.
On soupe quand on a faim?
On soupe quand on a faim. C'est pas mal dans les mêmes heures que nous, par exemple, mais c'est plus de prendre le temps avec l'autre. C'est plus de se pacer sur les émotions.
Ouais.
C'est particulier, puis...
Mais y a-tu des enfants à 10-11 heures le soir? J'ai des chums, moi, qui sont montés en mission. C'est des gars qui travaillaient pour la SQ puis étaient appelés à faire certaines missions. Là. Je ne sais pas si ça s'appelle des missions humanitaires pour la Sûreté du Québec. Mais ils allaient patrouiller là-bas. Puis ce qui les marquait, eux autres, parce que le soleil, les heures d'ensoleillement puis les heures de noirceur aussi sont pas les mêmes que nous autres, de ce qu'on comprend. Fait que pour eux autres, même s'il fait noir, c'est pas si grave que ça. Là. Il est 23 heures. C'est pas si grave. Ils vivent là-dedans.
Oui, puis tu sais, je trouve ça dur de juste pitcher des trucs comme ça, j'aimerais ça prendre le temps avec toi sur tellement d'aspects, mais assurément que dans les familles, une des choses les plus différentes de nous, c'est la structure, OK? Nous autres, on a une structure familiale et développementale pour l'enfant, ce qui veut dire qu'on a une heure de coucher pour nos enfants, on a une heure où ils vont manger, on a une heure de... Dans ces foyers-là, ce qu'ils préconisent, c'est l'amour porté aux enfants. Côté structure, globalement, tu te fais pas dire quand t'es jeune, ben là, c'est l'heure d'aller se coucher. Fait que ça fait en sorte que oui, ils peuvent jouer très, très tard le soir, ils peuvent se coucher. Des fois, s'il y en a un qui pogne un blitz de jouer avec ses jouets jusqu'à 6 heures du matin, il va jouer jusqu'à... Puis là, c'est global, là, mon commentaire, mais la structure n'est vraiment pas la même.
Parce qu'ils n'ont pas appris comme nous autres, on a appris. T'sais.
Oui,
des fois, faut t'enlèves tes yeux de personnes de Québec.
Il faut vraiment que tu te connectes à la culture qui est différente et que tu souhaites le comprendre. Puis là-dedans, tu peux te questionner à savoir qu'est-ce qui est peut-être mieux pour l'enfant ou pas, ou... Mais ça reste que faut y aller sans jugement.
Ouais. Chasse et pêche, comment c'était?
Extraordinaire, honnêtement. Et c'est des gens qui se débrouillent d'une manière que jamais on va se débrouiller, si je peux me permettre un jugement.
T'es-tu allé à la chasse à l'ours polaire avec ton canif?
Non, parce que les ours polaires étaient vraiment plus hauts, en fait, sur le territoire du Nunavik. Mais j'ai des anecdotes à te raconter. J'ai parlé avec un guide chasseur. Il y avait 25-26, une histoire épouvantable avec des ours polaires. Mais eux, ils ont peur de rien. C'est facile. Je te le dis, Yannick, ça serait une émission complète.
Ils ont peur de rien parce qu'ils sont nés là-dedans. Ils sont nés là-dedans.
Ils sont débrouillards.
Un ours polaire à Québec, là. On n'a jamais croisé. Peut-être, je pense qu'il y en avait un, si je ne me trompe pas, à l'aquarium de Québec.
C'est des animaux là extrêmement intelligents. Les ours polaires, ça fait partie des prédateurs les plus dangereux pour ça. Je veux dire, à un moment donné, il y en a un qui me racontait que l'ours polaire, eux, ils étaient dans la cabane, puis il y avait pêcher du poisson, OK?
Ouais.
Fait que l'ours polaire, qui a un odorat extrêmement développé, avait senti le poisson à des kilomètres à la ronde. Fait qu'il avait suivi. Puis quand il a vu l'ours polaire, les poissons, il s'est dit, je vais les alerter si je commence à manger ça. Fait qu'il va falloir que je trouve une technique. L'ours polaire, il s'est roulé dans gadou pour se camoufler, OK? Puis il est allé attendre derrière la cabane pour que les gens partent pour essayer d'aller dans le poisson après. Un autre exemple... Tu dois avoir 3 mètres de glace au Nunavik, à l'endroit où... ce que j'ai parlé en anglais toute la semaine, là, d'épaisseur. 3 mètres d'épaisseur de glace sur ces territoires-là où il y a les ours polaires. Puis eux, ils sentent aussi tout ce qui est petits phoques en dessous. Puis les phoques, c'est pas des animaux qui vont respirer longtemps en dessous de l'eau. Fait qu'ils cherchent des bulles d'air, puis ils vont se coller là, puis ils vont faire leur nuit là, OK? L'ours polaire les sent. Il se met en haut de ce 3 mètres d'épaisseur-là de glace. Il prend ses grosses pattes qui sont grosses comme ta tête, puis il va donner des coups. Boum! Boum! Ça va assommer les phoques qui vont être un peu comme toi après, mettons, 75 bières. Puis ils vont rester là. Il va réussir à fractionner le 3. Imagine à quel point c'est musclé. Il va fractionner le 3 mètres d'épaisseur de glace, puis il va manger.
Oh, ouais.
C'est... Tout ce que j'ai fait cette semaine-là, c'est d'écouter, de vivre avec eux. Puis c'est un peuple extrêmement accueillant quand ils se sentent en sécurité, mettons, avec toi, quand tu te prends pas pour quelqu'un d'autre, quand tu arrives là avec une humilité, une ouverture d'esprit. Je pense que si tu n'as pas ça, ça peut être un autre type d'accueil. Mais quand tu as ça, tout est ouvert. Puis tu me connais, j'ai été élevée dans un contexte où toutes les chances que tu prends pas, t'es père officiellement. Fait que pourquoi est-ce que tu les prends pas, ces chances-là? Fait que je me mettais à jaser avec eux, puis j'avais un intérêt sincère, probablement qu'ils ont senti ça et autres. Puis ça a fait en sorte que d'aller en skidoo avec une classe de culture, ça, c'est des jeunes qui réussissent pas nécessairement bien à l'école. Puis il y a Dan, c'est là, pour moi, c'est la rock star de cette école-là. Le gars, il a pas d'éducation, il réussissait pas, puis il a décidé d'ouvrir une classe de culture. Ça veut dire qu'on construit des traîneaux, on apprend à chasser, à attraper, on apprend à pêcher avec lui. Fait que les jeunes qui réussissent un peu moins...
Ça peut être le cours préféré des jeunes.
Bien, surtout quand, mettons, tu te vois pas dans l'opportunité de travailler ton cerveau ou aller plus loin dans ton parcours scolaire. Fait que eux, ils ont construit le traîneau toute la semaine, on les aidait, on faisait ça, puis il y a une patience inouïe, puis après ça, on est sortis tester le traîneau, mais on est aussi allé dans une sortie avec le fait de, dans la toundra, qui est un espace de c'est des plaines d'ouverture, c'était sur l'eau, puis il fallait faire les traces de skidoo. Il faut passer régulièrement parce qu'on a vécu un blizzard où on pouvait pas sortir pendant 24 heures. Là, on voyait pas à 200 mètres de nous. Fait que ça avait tout couvert les pistes de skidoo. Fait que là, les jeunes qui s'entraînent pour être guides envers ceux qui vont aller chasser, pêcher, les touristes, peu importe, nous ont sorti en skidoo dans toundra, puis ils se pratiquaient.
Les autres étaient contents.
Hein, capotaient. C'était d'une générosité inouïe. Moi, ce qui me fascine...
C'était d'une générosité inuite.
Ils se sont tellement adaptés au froid. Puis, tu sais, c'est un exemple, mais Dan part avec ses jeunes. Les jeunes, je les ai pas vus heureux de même. de la semaine, ils sont heureux, mais là, c'est comme une gang de labradors avec de la visite, puis des jouets, puis de la bouffe, puis des treats. C'est... Ils partent, puis sont fiers de nous montrer ça parce qu'on a communiqué avec eux, on a pris du temps avec eux, on était... En tout cas, la run qu'ils nous ont donnée, puis Dan, il part pas de sucre. Hey, 10 km facile, sans tuc, un peu le col ouvert, à moins 34 secs.
Ça me rappelle mon secondaire.
Ben oui, avec les oreilles pèsent même quand on sort de là. Mais ouais. Puis là, ils s'assurent que t'es correct. T'en vas dans le traîneau, tu te pèques le coccyx à 100, t'sais, quasiment 60 km/h dans un boss de glace.
Okay.
On s'arrête pour mettre des poteaux pour s'assurer qu'il y a un chemin vraiment, comme un peu si on mettait des drapeaux, là,
ouais,
qui est mis parce que tu peux te perdre puis jamais te retrouver dans la toundra, assurément. Mais tu sais, je te garoche d'informations, Yannick, je te jure, là, j'en aurais pour du contenu.
Tu dormais où, hein?
Je dormais dans une résidence qui est faite un peu pour des enseignants qui, justement, s'en viennent puis okay, qui ont à être logés. Mais on était au total 5. Moi, j'étais la cinquième, là, j'étais à rapport dans le groupe d'enseignants. Puis on voulait me loger avec un gars, ça lui écoute pas en ce moment, mais Alex, on a tellement ri parce qu'on est arrivé le premier soir puis on a vraiment... triper les uns avec les autres. On avait du plaisir puis tout ça. Fait que là, les enseignants ont dit « Hey, on t'envoie pas chez Alex Foreman, là. » Mais en plus, il est rendu 11h, tu seras pas... Dors avec nous autres, on va te faire un lit, on va checker c'est l'épaisseur des matelas, puis c'est très, très... bon, 3-4 draps, un oreiller, là. Là. Ouais. Ouais. Mais j'ai dit « Va dormir sur le divan, il y a pas de problème. » J'ai dormi pendant une semaine. Je suis jamais allée voir Alex Foreman, je l'ai rencontré à l'école, puis j'ai dit « Excuse-moi si tu m'attends encore, mais on fait tard, on joue aux cartes, on a du plaisir, on parle de nos journées. » Mais sur un divan, avec un genre de couette semi, mon oreiller, c'était un de mes deux manteaux, celui avec du duvet, là.
Mais t'étais confortable.
Je m'en foutais. Ben confortable, oui, est un bien grand mot, là. T'sais, à chaque soir, quand Chris, un des enseignants, il se réveillait, faisait du café avec nous autres, allait faire bouillir notre eau. On n'avait pas de cafetière. On prenait une passoire, je leur ai montré à mettre 3 filtres. On mettait du café là-dessus, t'sais, en moulu, là.
Ouais.
Puis on laissait goûter dans un genre de pichet de plastique. Mais c'était ça, notre réalité. Fait Chris se levait et disait « As-tu bien dormi? » Je disais « Mieux qu'hier, mais moins bien que demain. »
Moins que demain.
C'est ça.
OK. Okay. T'as dormi dans une tente aussi? J'ai
ouais,
vu.
J'ai pas dormi, j'ai passé la soirée là, okay, parce qu'on est revenu. En fait, c'était plus une expérience de longueur de soirée, puis on était toute la gang. Fait que si on avait dormi là, on était un petit peu empilés.
Mais ils sont bien
là,
organisés.
Fascinant. Puis tu sais, ça, c'est une tente qui appartenait à Nancy Atok, avec qui on a... C'est la directrice adjointe, en fait, qui nous a vraiment, vraiment aidés pendant toute la semaine. Puis t'as pas froid. Tu sais, du monde qui dit hey, « t'as-tu eu froid? T'as-tu... » Non, non, t'as un petit poêle là-dedans. C'est organisé en conséquence. Puis c'est un peu comme leur chalet. Pour eux, c'est un chalet. Tu pars en skidoo, tu fais quelques kilomètres, tu arrives à ta tente, tout le monde sait que c'est la tienne, mais il n'y a pas d'indication. C'est juste que ton lot, c'est le tien. Il y a énormément de respect par rapport aux biens matériels aussi des autres, parce que tu n'en as pas énormément. Mais on est rentré là, on a déneigé parce que le blizzard avait enseveli la tente. On a ouvert, on a fait un feu, on a réchauffé. Tu rentres là-dedans, c'est juste du sapinage encore frais qui n'est pas séché, en fait, mm-hmm, pour absorber un peu la froideur du sol. Puis on a passé la soirée là à souper, à jaser. C'est, je suis pleine de quelque chose que je veux pas qu'il parte, là. Puis...
T'as-tu pris ta douche à l'eau chaude hier ou tu l'as pris à l'eau ferme?
Ah oh non, j'ai pris à l'eau chaude, je l'ai encore. Je l'ai encore après, c'est ça l'anecdote. Mais moi, je descendais de l'avion, puis une heure ouais, après, j'avais ma game de dodgeball.
J'osais avec François-Guy Thivierge. Oui. Je pense que j'avais fait un marceau le soir avec. Puis, tu sais, lui, il me parlait à quel point c'était incroyable de faire l'Everest, parce qu'il a réussi à oui, le faire. Il a fait tous les plus gros monts de la planète, là, François-Guy Thivierge. Puis il disait... Tu sais, quand tu reviens chez vous avec une certaine humilité. Puis là, tu vois des choses à quel point, tu sais, t'es bien, t'es confortable mm-hmm, dans ta maison et tout mm-hmm, ça. Puis de mémoire, il m'avait dit... La douche d'eau chaude, là, tu l'apprécies en tabarouette quand t'arrives.
Sérieux, je suis excitée de t'en parler. Je suis contente de te le partager parce que je trouve que c'est le genre de choses probablement que tu aurais apprécié aussi. Puis je me sens plus que chanceuse là, de cette opportunité-là. Mm-hmm. Puis je remercie Luc Paquette parce que ça ne m'a pas coûté 6 000. Le fait d'être avec les profs, probablement que ça a tout changé dans mon voyage parce que ça fait des années que j'essayais. Puis c'est vraiment tough. Puis quand tu veux aller là-bas, vaut mieux que tu aies des agents de liaison. C'est des gens là-bas qui sont bien implantés puis qui savent un peu t'orienter puis te faire rencontrer la communauté. Tu vas pas dans un voyage de même si tu veux pas rencontrer la communauté, là. Puis que tu n'es pas prêt à dormir sur un divan, ouais, que tu n'es pas prêt à te challenger.
Tu mangeais quoi?
On avait apporté énormément de nourriture. Ma valise principale était pleine de nourriture versus...
T'as-tu pris des photos que je t'ai demandé de prendre à l'épicerie?
Ben, même si tu ne m'avais pas demandé, oui. T'as une épicerie où c'est vraiment très, très cher. Mettons, une boîte de Kool-Aid, c'est 32 $.
Une boîte de Kool-Aid,
ouais,
c'est quoi ça?
Pas un, personne ne boit encore ça, du Kool-Aid. Là. C'est genre une petite poudre que tu mets dans l'eau. Là,
30 $.
Puis tu sais, mais t'as une coop, par contre, qui a été développée, puis ça, ça a changé ouais. énormément l'approvisionnement dans les communautés
le
nordiques.
Lait.
Là. Mais cette coop-là, les prix sont beaucoup plus adaptés.
Ouais.
C'est beaucoup moins cher. Il y a des choses qui étaient au même prix qu'ici. Fait que ça a quand même changé. Il okay. y a eu une adaptation. Mais moi, je te parle pour mon village à George River. Je peux pas te parler pour tout le Nunavik. J'ai pas été partout.
Okay.
J'ai
la bière?
À George River. Il y en a pas.
Il y a pas de bière?
Non,
c'est
une communauté
là-bas?
Qui est sèche, effectivement.
Ah, ouais.
Fait que nous autres, on s'était monté.
Il y a pas de Coors Light?
Non,
pas,
rien.
Des fois, ça compte pas pour la bière, la Coors
non,
Light?
Non, c'est pas juste de l'eau fondue. Ah? Non, non. De la glace fondue, ça. Mais on avait apporté comme vignée bouteille, mais ça passe vite, tu sais, pas. Puis quand on a eu le blizzard, il y avait plus d'approvisionnement pendant plusieurs jours. Fait que c'est tellement important que cette communauté-là garde... beaucoup de droits de chasse, beaucoup de droits de pêche. Il y a des enjeux, je comprends, mettons, ici dans le parc de Laurentides par rapport à certains territoires qui sont exploités.
Ouais.
Parce que c'est peut-être mal exploité. Il y a peut-être quelque chose où on doit discuter avec les communautés.
T'as-tu mangé de quoi de weird?
Il y a du caribou.
Ouais, ça, c'est bon, ça.
C'était vraiment drôle parce que tu traînes tes pièces comme elles sont.
Ouais.
Puis moi, j'ai essayé, puis je vais continuer d'en mettre parce que j'ai plein de contenu. Mais de partager ça avec les gens. Ben, je me dis, ça te tente pas, c'est pas grave, mais peut-être ça te tente de le voir. Puis si ça te tente, ben, tu veux le voir. Avec les pattes de caribou, mettons, clairement, là, visuellement.
T'en as mis une sur ton
intégrale.
Épaule, puis t'as mis ça dans le four.
On a mis ça dans le traîneau entre deux sacs. Puis ça a dérangé, mettons, 2-3 personnes.
Ah.
Mais je veux dire, à un moment donné, c'est leur façon de se nourrir.
Exact.
Quand je te dis que le blizzard de 24 heures où t'as pas d'approvisionnement, t'as rien pour nourrir ta famille, ta chasse, ta pêche, là. Est primordial.
Mais ça, là, j'ai toujours été surpris par les gens qui sont pas capables d'enlever leurs yeux de personnes qui habitent dans des villes.
Mm-hmm.
Tu sais, je jasais avec un psychologue ou un psychiatre de l'Université de Montréal qui, lui, faisait une étude sur de quelle façon on traitait les gens qui étaient handicapés mentaux en Afrique.
Mm-hmm.
Il est arrivé dans un village, puis il était traumatisé quand il a demandé « Est où l'hôpital pour les gens en difficulté? » Puis ils ont dit « Mais il n'y a pas d'hôpital ici. » Ils ont dit « Ouais, mais les gens qui sont malades, non, il n'y a pas personne qui est malade. » Puis à un moment donné, il continue de se promener dans le village. Tout d'un coup, il voit qu'il y a une trail. C'est une grosse trail qui est employée par plusieurs personnes par jour. Puis il dit « Je vais y aller. » Fait qu'en montant, il commence à jaser avec les gens. Puis il dit « Oui, il y a des gens qui sont possédés en haut. » Puis quand il est arrivé autour de l'endroit où on mettait les gens qui étaient possédés, il s'est aperçu que c'était des gens qui étaient malades mentaux, qui étaient là, qui étaient attachés à l'arbre. Mais il dit « Si j'avais dénoncé ça, probablement qu'ils m'auraient attaché à l'arbre aussi. » Ces gens-là sont les gens qui t'ont dit « Voyons, Pascal, ça n'a pas de bon sens, là.
Une patte de caribou.
Une patte de caribou.
Sur ton Instagram.
Sur ton Instagram, c'est donc bien honteux. » Non, non, t'as peu.
Ils sont en minorité, en passant.
C'est ce qui leur permet de survivre en haut.
De
là.
Nourrir leur famille.
Ben
oui. Tu sais, Yann, je sais, on n'a pas de temps, mais juste des conversations. Tu sais que je suis allée au niveau politique, tu sais que je suis allée au niveau social, mais... Le mot Eskimo, te rappelles-tu la polémique là, de l'équipe de hockey qui s'appelait les Eskimos de...
C'est pas Edmonton?
Peut-être, mais ça avait fait jaser. Puis là, il faut changer le nom de l'équipe, puis ci, puis ça. Moi, j'en ai parlé là, avec les gens de la communauté. J'ai dit, est-ce que c'est péjoratif? Et là, il me répond, de te faire traiter de crise de blanche, c'est-tu péjoratif? J'ai dit oui. Mais si je te dis, ah, t'es une blanche, c'est-tu péjoratif? J'ai dit non. Elle dit, c'est la même chose. Elle dit, c'est des gens qui ont décidé que c'était péjoratif pour nous. Derrière Eskimo, assurément que la définition, c'est genre carnivore, viande crue, et ça a viré dans gens qui se mangeaient entre eux. Okay?
Cannibale.
Cannibale. Parce qu'il y a des histoires de survie.
Mais
c'est
en grande allée, j'en ai vu des gens qui se mangent. Non, c'était pas ça l'idée.
Non. Mais il y a des histoires qui ont dévié, puis qu'il faut comprendre un peu plus ce qu'il y a en arrière,
ben
du
oui.
genre une famille qui, à un moment donné, était dans la famine, puis la grand-mère s'est dit hey, « Moi, je me donne à vous. On va me tuer, vous allez me manger pour survivre. » Puis cette lignée-là a survécu parce qu'ils ont mangé. C'est épouvantable, gang, je comprends.
La ça, c'est pas arrivé la semaine passée.
Non, okay. Mais c'était un don, tu comprends-tu, d'elle-même. Puis après ça, il y a eu une lignée complète de cette famille-là qui a survécu. Puis c'est sûr que quand tu te mets dans ta tête de gens du Sud, c'est d'une épouvante. Mais le voyage que j'ai fait, là, qui était juste d'une semaine... réitère à quel point, avant de commenter, de juger, de parler pour une culture, une société, des valeurs, une façon de faire, il faut mettre les deux pieds dedans.
Ben ouais, faut aller faire un tour
notre
là-bas.
Regard est important. Il y a un regard éducationnel, un regard de structure familiale qui est le fun à échanger par rapport à la mine. Il faut échanger. Il n'y a rien qui est noir, il n'y a rien qui est blanc, tout est de gris. Puis il y a quelque chose qui m'a forgé puis qui m'a frappé. Quand j'enseignais aux jeunes, tu voyais les jeunes des fois habillés de la même manière que la veille. Pas parce qu'ils ont pas de, parce qu'il n'y a pas de structure. On leur a pas dit, on va aller prendre le bain, on va changer les vêtements, on va... J'en voyais une... tout de suite, c'est ça, j'ai été un aimant pour elle, puis c'était clairement quelque chose dans l'attachement-là, puis je me suis mis à poser des questions. C'est une jeune qui est dans une famille de 7. Est-ce qu'elle a vraiment son individualité? Est-ce qu'elle a vraiment quelqu'un à qui se rattache? Je sais pas. Mais c'était une petite fille qui avait besoin d'avoir un lien fort, puis elle l'avait pas. Fait qu'aussitôt que quelqu'un pouvait peut-être lui donner, c'est une manière de répondre à ça. Puis la petite fille, elle pleurait souvent, elle était un peu désorganisée ou autre, mais c'était les émotions avant la logique. Fait qu'on n'exclut pas la logique. Mais quand la petite avait quelque chose ou qu'il y a un enfant extrêmement turbulent, la manière d'aller le voir, c'est de dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Pas « Hey, va-tu... arrête » ou « Qu'est-ce qui se passe? » L'enfant va se confier, puis après, tu vas aller dans la logique. C'est ça, cette communauté-là. Je te dis, le nombre d'enfants qui avec qui on prend le temps pour s'assurer que la communauté est bien, qu'ils soient entendus, puis qu'il y a des changements, des fois, sociaux à travers ça. C'est cette manière-là qui est priorisée.
On aura l'occasion d'en reparler, cher Pascal. Je suis content, tu sembles avoir fait un beau voyage puis tu as plein de choses à nous raconter. Fait que ça a été payant pour la station d'envoyer là-bas. Ah non, tu l'as fait de ton propre chef.
Avec mon argent.
Ouais, c'est pas grave. Moi, mais je vais t'utiliser.
Mais je vais te faire quand même une facture à fin.
Non.
Oui, je te fais une facture à fin. Là, comme ça vient de te coûter 200 $.
Tu m'enverras ça par courriel.
Super.
11h55, on vient.